Les vers. Environ un mois après notre arrivée à Moscou, je me trouvais à l'étage supérieur de la maison de la Babouchka et j'écrivais. En face de moi, le professeur de dessin finissait une tête de turc au crayon noir. Volodia, le cou tendu près du professeur, regardait par-dessus son épaule. Cette tête était la première œuvre au crayon noir de Volodia. Ce jour même, jour anniversaire de la Babouchka, il devait lui offrir ce présent. « Ne mettez-vous pas un peu d'ombre ici ?» demanda Volodia en se dressant sur la pointe des pieds et en désignant le cou du Turc. « Non, c'est inutile, » dit le maître qui ramassa ses crayons et les serra dans une boîte. « C'est très bien à présent. N'y touchez plus. » « Et vous, Nikolenchka ?» me dit-il en se levant et en regardant du coin de l'œil le Turc de Volodia. « Découvrez-vous enfin votre secret ? Qu'offrirez-vous à la Babouchka ? Vous auriez bien fait vraiment de dessiner aussi une petite tête. Au revoir, messieurs. » Il prit son chapeau, reçut son cachet et sortit. Je pensais comme le professeur de dessin. J'eusse mieux fait de dessiner moi aussi une tête, plutôt que d'offrir ce à quoi je m'occupais en ce moment. Quand on nous avait appris que le jour anniversaire de la naissance de la Babouchka était proche et que nous devions préparer des présents pour cette solennité, il me vint aussitôt à l'idée de faire des vers de circonstance. Et sur le champ, je composai deux vers très rythmiques. Et ce fut tout. Mais je ne désespérais pas de trouver le reste. Je ne me rappelle pas bien comment une idée aussi étrange pour un enfant m'était venue. Mais je me souviens qu'elle me plut beaucoup. À toutes les questions qu'on me posait à propos de mon cadeau, je répondais invariablement que, moi aussi, je préparais quelque chose pour la Babouchka. Mais je refusais de m'expliquer davantage. Contre mon attente, il se trouva que, sauf les deux vers que j'avais composés dans l'inspiration du premier moment, je ne trouvais plus rien. Je relus les vers qui se trouvaient dans nos livres d'études, mais ni Dimitriev ni Derjavine ne me furent d'aucun secours. Au contraire, ils me convainquirent de mon incapacité. Sachant que Karl Ivanovitch aimait à copier des vers, je fouillai furtivement ses papiers, et parmi des poésies allemandes, j'en trouvai une en russe, qui était sans aucun doute de notre gouverneur. À Madame L., Petrovskoye, 1828, le 3 juin. Rappelez-vous de près, rappelez-vous de loin, rappelez-vous moi. Encore d'aujourd'hui et jusqu'au toujours, rappelez-vous encore jusqu'à ma tombe, comme fidèle je suis et aimé je peux. Karl Moer. Cette poésie, tracée en ronde majestueuse sur du papier à lettres, me plut par le profond sentiment de sincérité qu'elle respirait. Je la pris incontinent par cœur et résolus de la prendre pour modèle. Dès lors, la chose alla plus rapidement. Le jour de la fête, mon compliment en 12 vers était prêt. Je le recopiai dans la salle d'études sur du velin. Déjà, deux feuilles avaient été gâchées. Non que j'eusse voulu introduire des changements à ma poésie, les vers m'en paraissaient excellents. Mais dès la troisième ligne, les derniers mots montaient toujours en haut. De sorte que, même de loin, il était visible que j'avais écrit de travers. La troisième feuille présenta le même défaut que les deux autres, et je résolus de ne pas recommencer une quatrième copie. Dans mes vers, je complimentais la Babouchka, je lui souhaitais une longue vie, et je terminais ainsi. « Nous tâcherons de te consoler et nous t'aimons comme notre propre mère. » Il me parut que ce n'était pas mal, bien que le dernier vers m'offensât quelque peu l'oreille. « Aimons comme notre propre mère, » répétais-je en comptant les syllabes. Quelle rime eût-il fallu trouver pour remplacer le mot « mat » qui veut dire « mère » ? Est-ce « ygrate » qui veut dire « jour » ? « Crovate » qui veut dire « lit » ? Non, cela ira bien ainsi. Cela me rapprochera davantage des vers de Karl Ivanovitch. Et je finis de copier le dernier vers. Puis, Dans ma chambre à coucher, je relus mon œuvre à haute voix et en l'accompagnant de gestes. Il y avait des vers sans rythme, mais je ne m'arrêtai pas à cela. Le dernier me frappa plus agréablement et plus fortement que les autres. Je me mis sur mon lit, tout songeur. Pourquoi ai-je écrit comme notre propre mère? Elle n'est pas ici et je ne devrais pas la mentionner. Il est vrai que j'aime la babouchka. Je l'estime, mais ce n'est pas cela. Mais pourquoi ai-je menti? Oh, après tout, ce sont des vers. Tout de même, je n'eusse pas dû. Le tailleur entra à ce moment. Il nous apportait nos petits frocs neufs. Soit, dis-je impatienté, en fourrant avec dépit mes vers sous mon oreiller. Et je courus essayer l'habit que m'apportait le tailleur de Moscou. Les habits du tailleur de Moscou étaient superbes. Les petits fracs bruns, ornés de boutons de cuivre, nous allaient bien à la taille. Ce n'était pas comme nos habits de campagne, taillés de manière que nous pussions grandir dedans. Les petits pantalons noirs bien collants dessinaient merveilleusement nos jambes et tombaient bien sur nos bottes. Enfin, j'ai un pantalon avec des sous-pieds, de véritables sous-pieds, me dis-je, ivre de joie, en regardant mes jambes sous tous leurs aspects. Bien que je me sentisse fort mal à l'aise dans mon nouvel habit trop sanglé, je ne voulais pas en convenir. Je déclarai y être très commodément, et je n'y trouvais qu'un défaut, celui d'être un peu large. Une fois habillé, je restai très longtemps devant la glace à me pommader et à me peigner. Malgré tous mes efforts, je ne pouvais arriver à lisser mes cheveux. Aussitôt que je voulais expérimenter leur obéissance et que je cessais de les comprimer avec la brosse, ils se dressaient de tous côtés et donnaient un aspect très ridicule à ma physionomie. Karl Ivanovitch s'habillait dans une chambre voisine. Je vis, à travers la salle d'études, qu'on lui apportait un frac bleu et quelques autres vêtements blancs. À la porte qui conduisait aux étages inférieurs, j'entendis la voix d'une des femmes de chambre de la babouchka. Je sortis pour savoir de quoi il s'agissait. Elle tenait à la main un devant de chemise fortement empesé. Elle me dit qu'elle l'apportait à Karl Ivanovitch et qu'elle avait dû passer la nuit pour le laver et le repasser. Je pris le devant de chemise et demandai si la babouchka était déjà levée. Ah, comment donc ? Elle a déjà daigné prendre son café. Et le protopope est déjà arrivé. Comme vous êtes beau, s'écria la femme de chambre en examinant mon nouvel habit avec un sourire d'admiration. Cette remarque me fit rougir de plaisir. Je pivotai sur un talon, je fis claquer mes doigts, voulant faire sortir par là qu'elle ne savait pas encore quel gaillard j'étais. Quand j'apportai le devant de chemise à Karl Ivanovitch, il n'en avait plus besoin. Il en avait mis un autre et, penché devant une petite glace posée sur la table, il tenait de ses deux mains un magnifique nœud de cravate. Il tira nos habits de tous les côtés, à Volodia et à moi, puis il demanda à Nikolai de lui rendre le même service. Après quoi, nous nous rendîmes chez la babouchka. Je ris encore quand je me rappelle la forte odeur de pommade qui s'exhalait de nos trois têtes lorsque nous descendîmes l'escalier. Karl Ivanovitch avait à la main une petite boîte qu'il avait faite lui-même. Volodia, son dessin, et moi, mes vers. Chacun de nous préparait le compliment qui devait accompagner chaque cadeau. Au moment où Karl Ivanovitch ouvrit la porte, le prêtre mettait sa chasuble et l'office commençait. La babouchka était déjà là, appuyée sur une chaise. Elle se tenait debout près du mur et faisait pieusement ses prières. Papa était à côté d'elle. Elle se retourna vers nous et sourit de nous voir cacher nos cadeaux avec précipitation. Nous étions restés près de la porte, nous efforçant de n'être point remarqués, et voilà que la surprise sur laquelle nous comptions était manquée. Quand on s'approcha de la croix pour la baiser, je me sentis tout à coup saisi d'un très pénible sentiment de timidité. Jamais je n'aurai le courage d'offrir mon compliment. Je me cachai derrière Karl Ivanovitch, qui, avec les expressions les plus choisies, présentait ses vœux à la babouchka. Il passa sa petite boîte de sa main gauche dans sa main droite et la tendit ensuite à celle à l'intention de qui il l'avait confectionnée. Puis, reculant de quelques pas, il céda la place à Volodia. La babouchka semblait enchantée du cadeau de Karl Ivanovitch. Elle exprima sa gratitude par son sourire le plus affable. Il était cependant visible qu'elle ne savait pas où mettre cette boîte. Pour s'en débarrasser, elle la passa à mon père, en lui disant d'admirer avec quelle habileté ce travail était fait. Après avoir satisfait sa curiosité, papa donna la petite boîte au protopop, à qui elle parut plaire énormément. Il hochait la tête et l'examinait avec attention. Puis, il regarda celui qui avait su créer un tel objet d'art. Volodia offrit son turc et reçut aussi les louanges les plus flatteuses de toute l'assistance. C'était mon tour. La babouchka m'encourageait d'un sourire. Ceux qui ont eu à lutter avec leur timidité savent que ce sentiment augmente en raison directe du temps, tandis que le courage diminue en raison inverse. Toute mon énergie était partie pendant que Karl Ivanovitch et Volodia présentaient leurs cadeaux. Je sentais le sang refluer sans cesse de mon cœur à ma tête, et mon visage était de toutes les couleurs. De grosses gouttes de sueur perlaient sur mon front et sur mon nez. Mes oreilles étaient en feu, et je tressaillais de tout mon corps. Il m'était impossible de bouger. « Eh bien, Nikolenchka, me dit papa, montre donc ce que tu as. »« Une boîte ? Un dessin ?» Il n'y avait plus à reculer. D'une main tremblante, je tendis le rouleau fatal, tout chiffonné. Mais la voix me manqua, et je demeurai bouche béante devant la babouchka. Je ne pouvais me faire à la pensée qu'au lieu du dessin attendu, on lirait devant tous mes détestables vers, et ces mots, comme notre propre mère, qui prouverait clairement que je n'avais jamais aimé maman, ou que je l'avais déjà oubliée. Comment décrire mes souffrances quand la babouchka commença à lire ma poésie à haute voix ? Surtout quand, s'étant arrêtée au milieu d'un vers mal écrit, elle lança à mon père un sourire qui me parut ironique, et quand, à cause de sa vue fatiguée, elle dut remettre le papier à papa en lui demandant de relire le tout. Il me semblait qu'elle fit cela par ennui de lire des vers aussi mauvais et aussi mal écrits. Et pour que papa pût s'assurer lui-même, par le dernier vers, quelle était mon insensibilité à l'égard de ma mère. Je m'attendais à recevoir ma poésie à la figure, avec une pichenette. « Mauvais petit gamin, tu oublies ta mère, tiens, voilà ta punition. » Mais rien de semblable n'arriva. Au contraire, quand papa eut fini, la babouchka dit « C'est charmant » et m'embrassa sur le front. La petite boîte, le dessin et mes vers furent placés à côté de deux mouchoirs de batiste et d'une tabatière ornée du portrait de maman sur une petite table. « La princesse Varvara Ilinichna !» annonça un des grands laquais qui accompagnait toujours la voiture de la babouchka. La babouchka, toute songeuse, contemplait le portrait qui était sur la tabatière en écaille. Elle ne répondit rien. « Ordonnez-vous de la faire entrer, votre excellence ? » répéta le laquais.